Ce qui est sûr, c'est qu'on avait beaucoup discuté à Conches pour savoir si l'on se rendrait à Rouen, dans une semaine de là, le mardi d'avant la mi-carême, au festin auquel le dauphin, duc de Normandie, avait prié tous les plus importants chevaliers normands pour tenter de s'accorder avec eux. Philippe de Navarre conseillait qu'on refusât, Charles, au contraire, était enclin à accepter. Le vieux Godefroy d'Harcourt, celui qui boite, était contre et le disait bien fort. D'ailleurs, lui qui s'était brouillé avec feu le roi Philippe VI pour une affaire de mariage où l'on avait contrarié ses amours, ne se regardait plus tenu par aucun lien de vassalité envers la couronne. « Mon roi, c'est l'anglais, » disait-il. Son neveu, l'obèse comte Jean, que le fumet d'un banquet eut traîné à l'autre bout du royaume, penchait pour y aller. À la fin, Charles de Navarre dit que chacun en ferait à son gré, que lui-même se rendrait à Rouen avec ce qu'il voudrait, mais qu'il approuvait autant les autres de ne point paraître chez le dauphin, et que même c'était sagesse qu'il y en eût dans le retrait, car jamais il ne fallait mettre tous les chiens dans le même terrier. Une chose encore fut rapportée au roi, qui pouvait étayer le soupçon de complot. Charles de Navarre aurait dit que si le roi Jean venait à mourir, aussitôt il rendrait public son traité passé avec le roi d'Angleterre, par lequel il le reconnaissait pour roi de France, et qu'il se conduirait en tout comme son lieutenant dans le royaume. Le roi Jean ne demanda pas de preuves. Le premier soin d'un prince doit être de toujours faire vérifier la délation, et la plus plausible aussi bien que la plus incroyable. Mais notre roi manque tout à fait de cette prudence. Il gobe comme Euphrée tout ce qui nourrit ses rancunes. Un esprit plus rassis eût écouté, et puis cherché à rassembler renseignements et témoignages au sujet de ce traité secret qui venait de lui être révélé. Et si de cette présomption il avait pu faire vérité, il eût alors été bien fort contre son gendre. Mais lui, dans l'instant, prit la chose pour certifiée. Et c'est tout enflammé de colère qu'il entra dans l'église. Il y eut, m'a-t-on dit, une conduite étrange, n'entendant point les prières, prononçant tout de travers les répons, regardant chacun d'un air furieux et jetant sur le surplis d'un diacre la braise d'un encensoir auquel il s'était heurté. Je ne sais trop comment fut baptisé le rejeton des Dartois, mais avec un semblable parrain, je crois qu'il faudra bien vite faire renouveler ses vœux à ce petit chrétien-là si l'on veut que le bon Dieu l'ait en miséricorde. Et dès l'issue de la cérémonie, ce fut l'ouragan. Jamais les moines de Beaupré n'entendirent tant de jurons affreux, comme si le diable s'était venu loger dans la gorge du roi. Il pleuvait, mais Jean II n'en avait cure pendant toute une grande heure, et alors qu'on avait déjà corné l'eau du dîner, il se fit saucer en arpentant le jardin des moines, battant les flaques de ses poulaines, ces ridicules chaussures que le beau monsieur d'Espagne et lui mirent en mode. Et forçant toute sa suite, messire Nicolas Braque, son maître de l'hôtel, les messire de Loris et les autres chambellans, et le maréchal d'Audrehem et le grand Jean d'Artois, tout éberlué et penaud, à se tremper avec lui. Il se gâta là pour des milliers de livres de velours, de broderies et de fourrures. « Il n'y a nul maître en France, hors moi !» hurlait le roi. « Je ferai qu'il crève, ce mauvais, cette vermine, ce blaireau pourri qui conspire ma faim avec tous mes ennemis. Je m'en vais l'oxyre moi-même. Je lui arracherai le cœur de mes mains et je partagerai son puant corps en tant de morceaux, m'entendez-vous ? Qu'il y en aura assez pour en pendre un à la porte de chacun des châteaux que j'ai eu la faiblesse de lui octroyer. » Et qu'on ne vienne plus jamais intercéder pour lui, et qu'aucun de vous ne s'avise de me prêcher l'accommodement. D'ailleurs, il n'y aura plus lieu de plaider pour ce félon, et la Blanche et la Jeanne pourront se vider à faire couler leurs larmes, on apprendra qu'il n'y a nul maître en France hors moi. Et sans cesse, il revenait sur ce nul maître en France hors moi, comme s'il avait eu besoin de se persuader qu'il était le roi. Il se calma à demi pour demander quand se tiendrait ce banquet que son âne de fils offrait si courtoisement à son serpent de gendre. « Le jour de la Saint-Irène, le 5 avril. »« Le 5 avril, la Saint-Irène, » répéta-t-il, comme s'il avait peine à se mettre une chose si simple dans l'esprit. Il resta un moment à secouer la tête, tel un cheval, pour égoutter ses cheveux jaunes tout collés de pluie. « Ce jour-là, j'irai chasser à Gisors, » fit-il. On était habitué à ces sautes d'humeur. Chacun pensa que la colère du roi s'était épuisée en paroles et que la chose en resterait là. Et puis advint ce qui se passa au banquet de Rouen. « Oui, mais vous ne le savez pas par le menu. Je vais vous conter cela, mais demain, car pour ce jour-d'hui, l'heure avance et nous devons être proches d'arriver. Vous voyez, à bavarder ainsi, le chemin paraît plus court. Pour ce soir, nous n'avons qu'à souper et dormir. Demain, nous serons à Auxerre, où j'aurai des nouvelles d'Avignon et de Paris. Ah, un mot encore, Archambault. Soyez circonspect avec monseigneur de Bourges qui nous accompagne, si jamais il vous entreprend. Il ne me plaît guère, et je ne sais pourquoi j'ai dans l'idée que cet homme-là a des intelligences avec le Capocci. Lancez le nom sans paraître y toucher, et vous me direz ce qu'il vous en semble.